mode d'emploi.
Donc mode d'emploi, ce soir secret de fabrication, donc le format spécial qui nous permet de parler de la vie dans les entreprises, des résistances, des initiatives des salariés pour refuser d'être transformés en choses par le patronat. Donc ce soir nous allons faire une émission qui est un peu le complément de ce que nous avons fait la dernière fois. La dernière fois nous avions vu toute une série d'outils de résistance, d'outils pour comprendre un peu la situation et ne pas se laisser faire. Ça c'était en prévision de l'année 2017, ça y est nous y sommes, nous sommes en 2017 et maintenant nous allons faire le contraire, c'est-à-dire que nous allons faire un bilan perspective de 2016. En reprenant toute une série de combats emblématiques. Et non, on va pas parler de Nuit Debout. Et non, on va pas parler de Nuit Debout parce qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses autour de Nuit Debout, même si respect pour ce combat. Il y a eu toute une série d'initiatives qui n'étaient pas parties de Nuit Debout, mais qui ont accompagné la question du travail, qui ont posé ces questions cruciales et qui nous ont permis d'élargir un peu le débat. C'est ce que nous allons faire ce soir, donc plusieurs thèmes. Alors nous recevons aujourd'hui, alors oui, Selma est en mission chez les Oompa Loompa et donc elle ne pourra pas être là ce soir. Elle tentera de nous joindre en régie bien sûr plus tard, mais là tout de suite je suis avec Thomas donc qui est inspecteur du travail.
Bonsoir.
Thomas. Ouais, bonsoir. Voilà, et qui va nous parler en fait d'une campagne qui a duré toute l'année 2016.
Qui n'est pas terminée.
Et qui, merci, qui n'est pas terminée, c'est vrai. Et qui a mené de nombreuses actions. Donc vas-y Thomas, dis-nous un peu cette campagne, quel est son sens?
Bah écoute, simplement déjà pour dire d'où je parle, moi ouais. je suis inspecteur du travail, donc je milite dans le cadre de l'intersyndicale. Et moi au titre de la CGT. Mmh. Et donc cette campagne, bon, c'est une campagne au long cours, hein.
Ouais.
Ça fait 2 ans qu'on est aux côtés des collectifs de sans-papiers, donc de la coordination 93, du collectif de travailleurs sans-papiers de Vitry et puis de Droit Devant. Mmh. Donc c'est vraiment un travail au long cours avec ces collectifs et puis dans le cadre de l'intersyndicale du ministère du Travail. Alors peut-être pour expliquer un peu le sens de la démarche, je pense que on reprend un peu le flambeau au niveau de l'inspection du travail. Il y a eu des militants hein, qui sont battus pour cette cause,
mm-hmm.
notamment contre l'instrumentalisation de l'inspection du travail pour faire la chasse aux sans-papiers. Mm-hmm. On a été obligé de saisir l'Organisation internationale du travail pour essayer de défendre nos missions qui sont évidemment de défendre le droit des salariés. Et dans la question des sans-papiers, c'est bien ça qui est en cause. Hein. C'est le respect des droits fondamentaux et notamment le respect du code du travail pour ces sans-papiers. Donc c'est un peu l'expérience qu'on peut avoir et notamment la difficulté de faire respecter ces droits en tant qu'agent de l'inspection du travail qui nous a conduit à nous engager aux côtés de ces travailleurs sans papier.
Hmm. Donc en fait effectivement il y a comme une espèce d'alliance une alliance entre les collectifs et l'intersyndicale. Tu peux juste nous citer les syndicats de l'intersyndicale?
Alors au sein de l'intersyndicale du ministère du Travail, il y a d'une part le Sud Travail, mm-hmm. et le SNUTEF FSU.
Mm-hmm. Donc ainsi que
et donc évidemment le enfin évidemment moi je suis à CGT donc
voilà.
Voilà, c'est dans ce cadre-là effectivement qu'on essaye de travailler de manière unitaire. Donc ce que je disais, c'est effectivement le constat un peu de l'impuissance de nos services pour faire respecter les droits des salariés. Et donc ce qui nous a conduit à entamer en 2015...
Attends, je t'interromps là. Ouais. L'impuissance des services. Pourquoi ouais. l'inspection du travail est impuissante dans le cas des sans-papiers? Explique-toi un peu.
Alors l'impuissance, c'est très concret, c'est-à-dire que si on intervient auprès d'un employeur qui maltraite son salarié sans papier, que ça soit l'exposer à des risques multiples, à l'amiante, sur des chantiers, ou tout simplement ne pas le rémunérer, voire le traiter comme un esclave, on a des situations évidemment, on pense à la lutte du 57 boulevard de Strasbourg et les cas de des coiffeuses qui sont battues dans le cadre d'une grève justement au démarrage d'ailleurs de cette campagne. En fait, si on intervient auprès de l'employeur dans ce cadre-là, c'est une solution toute trouvée pour l'employeur, c'est qu'il peut les licencier sans autre formalité du fait de l'absence de titre de travail. Et donc, en fait, on est réduit à l'impuissance pour pouvoir faire respecter leurs droits. Donc, c'est pour ça que il y a un enjeu vraiment fondamental à la régularisation de tous les sans-papiers pour qu'ils puissent exercer leurs droits de travailleurs et qu'ils puissent se défendre sur leur lieu de travail. Donc le terme qu'on retient souvent avec les collectifs, c'est la question de la surexploitation, quoi. Il y a à la fois leur condition de travailleurs qui est commune malgré tout à l'ensemble du salariat. Et puis par ailleurs, le fait que l'absence de papier les conduise à une surexploitation. En fait, cette surexploitation, elle a des conséquences très concrètes. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau, de notamment par exemple en 2016, cette surexploitation, elle conduit à des résistances, à des grèves. Mm-hmm. On l'a vu sur le dernier cas là, mené à Paris, à l'avenue de Breteuil, où suite à un accident de travail. D'un des travailleurs sans papier sur le chantier qui aurait pu conduire à sa mort, en fait, hein. On était vraiment dans un cas extrême.
Il s'en est sorti,
mais on était à deux doigts d'une vraie catastrophe. En fait, l'employeur a essayé, comme souvent c'est le cas, a essayé de mettre l'accident de travail sous le boisseau. Et du coup, là, il y a eu la solidarité des travailleurs sur le chantier qui ont bloqué le chantier et qui ont, pendant plusieurs semaines, fait grève et qui ont finalement obtenu leur régularisation. Donc, c'est vrai que la campagne pousse tout à fait dans ce sens.
De la régularisation.
De la régularisation et notamment à partir du moment où il y a une relation de travail qui est établie. Et là, encore une fois, le rôle des services de l'inspection de travail est très important sur cet aspect.
D'accord. Donc en fait, c'est intéressé de la part des inspecteurs et des contrôleurs du travail qui soutiennent cette action. C'est intéressé. Ils veulent améliorer aussi leurs conditions d'exercice à eux.
Bah, on se bat d'autant mieux qu'on sert ses intérêts. Donc,
ouais,
donc effectivement, il y a des attaques multiples hein, contre les services du ministère du Travail. Et le fait de pouvoir revendiquer qu'on défend des salariés devient de plus en plus difficile, et dans le cas des sans-papiers, c'est un peu un cas limite en fait, hein. Donc donc là, ce qui est intéressant finalement dans la campagne, c'est qu'on n'est plus sur des revendications défensives en disant on veut pas être instrumentalisé par l'État.
D'accord.
Donc ça, c'est
ça,
quelque
on a
chose
fait déjà, ouais.
On a fait, mais bon, il faut rester vigilant sur ce point-là. Et là, on est sur des revendications offensives où on veut que quand on rentre dans l'entreprise, on puisse être utile aux travailleurs sans-papiers et qu'on puisse effectivement les aider au processus de régularisation.
C'est ça. Parce que en fait, il y a effectivement un cahier revendicatif là entre les inspecteurs et contrôleurs d'un côté et les collectifs sans papier. Il y a un cahier revendicatif commun, c'est ça.
Oui,
hein,
c'est ça. Alors en fait, on a à la fin de l'année 2015, on a fait un travail de réflexion avec les collectifs de travailleurs sans papier et les camarades sans papier, et on a abouti effectivement à trois revendications qu'on porte depuis lors dans le cadre de nos actions. On va y venir sur les actions qui ont ponctué
L'année
2016. Mais voilà, donc les trois revendications, c'est donc d'une part l'abrogation de la taxe OFI.
Alors, la taxe OFI, c'est quoi?
Alors,
faut y aller.
La taxe OFI, en fait, c'est la taxe que l'employeur est censé payer au moment de la procédure de régularisation, donc de payer à l'État.
Mm-hmm.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que très concrètement, c'est des sommes qui sont récupérées sur le salaire des salariés. Et en fait, cette taxe s'avère être en contradiction avec les normes internationales, notamment la Convention 97, qui prévoit que toutes les mesures qui sont, en tout cas toutes les procédures que l'étranger entreprend doivent être gratuites. Et donc là, en fait, c'est des sommes qui sont répercutées.
La Convention 97, c'est la Convention 97 de l'Organisation internationale.
Voilà.
voilà, travail sur les droits des travailleurs migrants.
Voilà, c'est ça. Mmh.
C'est ça. Que la France a ratifié.
Alors celle-là, oui, il y en a une autre. Alors j'ai peur de me tromper dans le numéro 149 ou 7.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
La convention additionnelle sur les droits des travailleurs migrants.
Voilà, celle-là, elle est pas ratifiée. Elle a un certain nombre de dispositions qui seraient très intéressantes d'ailleurs pour le respect des droits fondamentaux, mais en tout cas, voilà. Elle est pas ratifiée. Après, bon, sur les autres revendications, ce qu'on souhaiterait, c'est que dans le processus de régulation, la preuve de relation de travail puisse être apportée par tout moyen. Et dans ce cadre-là, notamment, on préconise aussi que l'inspection du travail puisse avoir un pouvoir spécifique qui permette d'avancer sur la gradation. Donc, c'est sur ces revendications-là qu'effectivement, il y a des occupations, il y a eu 3 occupations en 2016.
Trois occupations? Des occupations de quoi? Qu'est-ce qu'ils ont occupé, les sans-papiers?
Alors, en fait, ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que, le diagnostic qu'on fait, c'est que on estime que le rôle de l'État est central dans l'exploitation des sans-papiers, et que la procédure de régularisation qui est en fait dans la circulaire Valls, hein, du nom de son auteur, est une sorte de soupape de sécurité pour maintenir l'oppression des sans-papiers. Et donc en fait les 3 occupations de l'année 2016 ont été des locaux du ministère du Travail.
Les locaux de l'inspection.
Alors l'inspection dans un premier temps directement. On estimait que finalement les travailleurs sans papiers sont des usagers comme les autres, et qu'ils avaient le droit à la protection des agents de l'inspection du travail. Et puis après on est monté d'un cran, puisque donc la première occupation est au mois de janvier 2016, mais on n'a pas eu de véritablement de suite. Et on est monté d'un cran et on a occupé la direction générale du travail juste avant que le mouvement contre la loi travail démarre.
Enfin, juste avant que Nuit Debout démarre.
Nuit Debout démarre, ouais. Et puis les premières manifestations, effectivement, contre la loi travail. Ça a commencé à un peu peser parce que l'État était obligé de discuter, mais sans qu'il y ait eu d'engagement véritable. Donc c'est pour ça qu'on a dû renouveler ce type d'action le 23 novembre dans une nouvelle direction du ministère du Travail. Et aujourd'hui... suite à l'ensemble de ces mouvements, on a été reçu par le cabinet de la ministre du Travail, El Khomri. Et donc, il y a de nouvelles discussions qui vont s'ouvrir dans ce cadre-là, sur la base des revendications portées par la campagne et la coordination.
Mais alors, il y a une intersyndicale donc de l'inspection du travail avec les collectifs sans papiers. Est-ce que ça influe sur les autres syndicats, l'Interpro, par exemple, qu'est-ce qu'en pense la Confédération CGT, puisque donc tu es à la CGT, donc qu'est-ce qu'en pense la Confédération CGT du cahier revendicatif, de ce qu'on a porté toute l'année?
Sur les grèves de l'année 2016 ou 2015, on est sur des processus où la circulaire Valls a été vraiment menée jusqu'au bout, parce qu'en fait on parlait du 57 boulevard de Strasbourg dans ce cas-là, hein, où donc une grève qui a été soutenue,
les coiffeuses que nous avons reçues d'ailleurs à cette émission,
très bien. Et donc effectivement dans ce cadre-là on voit bien que les victimes en fait du travail dissimulé, voire de la traite, hein, parce que dans ce cas-là c'était la traite, sont dans la main en fait de la même personne qui est censée les régulariser. Et donc il y a une contradiction fondamentale là qui apparaît, c'est-à-dire que c'est censé être l'employeur qui met le tampon pour engager le processus de régularisation, alors que c'est lui-même qui profite de l'infraction. Donc dans le cas de 57 boulevard de Strasbourg, on était même dans le cas de la traite des êtres humains, hein. C'est vraiment un abus de la vulnérabilité ces travailleurs.
On demandait à l'esclavagiste de faire les démarches pour mettre un terme à l'esclavage, si j'ai bien compris.
Voilà, donc d'accord. on voit toute l'hypocrisie, hein, de l'État, hein, dans ce cadre-là. Donc notamment voilà ce travail-là sur la grève du 57 boulevard de Strasbourg et sur l'avenue de Breteuil permet de voir une sorte de diagnostic partagé sur la situation des travailleurs sans papier au regard de ce système qui est vraiment absurde en matière de c'est une sorte d'amnistie en fait qui est confiée aux employeurs alors que il y a des victimes qui obtiennent aucune réparation par rapport à leur situation donc voilà. Et effectivement l'enjeu clairement dans la lutte des sans-papiers c'est aussi de pouvoir permettre d'avoir un rapport de force qui soit suffisant. Sachant que quand même on l'a pas noté, mais l'ensemble des actions en 2016 sont déroulées pendant la période d'état d'urgence, donc avec une situation effectivement extrêmement tendue, que ça soit pour l'ensemble des mouvements sociaux, donc avec une grande difficulté effectivement à construire un rapport de force suffisant pour obtenir des véritables avancées. Donc là, il y a eu quand même des grandes avancées en termes unitaires, en termes de comment on a fait avancer des thèmes. Mm-hmm. Mais c'est sûr que bon, il est encore loin de la coupe aux lèvres.
D'accord. Mais quand même, globalement, si on reprend l'année 2016, on peut dire que la campagne a avancé sur ses objectifs. On pourrait dire que on n'a pas trop reculé. On a même on a pu poser des choses.
On fait pas du sur place, non.
Ouais, c'est ça, c'est déjà pas mal.
Non, je crois, de toute façon, dans l'action, on arrive effectivement à voir les choses évoluer, et c'est comme ça qu'on reste pas immobile. Bon, je pense que voilà, la rencontre d'aujourd'hui était quand même avec le ministère du Travail était quand même assez positif. Mm-hmm. Il va y avoir un retour parmi les collectifs, les camarades sans papiers vont discuter pour voir un peu comment on envisage l'année 2017.
Mm-hmm. D'accord. Donc c'est comme work in progress. C'est ça. Donc on lâche pas l'affaire.
Ah non.
Donc c'était bien ça. Donc le thème de l'émission. Donc, premier sujet. On s'est bagarré tout le long de 2016.
Et on continue.
Et 2017, on continue jusqu'au bout. Ok. Nous allons passer un petit morceau. Alors c'est une spéciale dédicace parce que c'est Tracy Chapman qui raconte comment on franchit les lignes du racisme. Donc j'ai voulu faire un petit hommage là-dessus. Et après nous allons changer de sujet avec un autre combat dont nous avons parlé déjà dans cette émission, mais je vous laisse la surprise pour après ce morceau de musique. Alors voilà, c'était donc Tracy Chapman, Across the Lines. Alors nous maintenant, nous allons aborder une autre lutte qui s'est développée pendant l'année 2016, même si elle antidate largement cette année-là, et dont nous avons également déjà parlé pendant cette émission. C'est la lutte qu'une collègue a menée contre un géant de l'industrie, qui est l'entreprise Tefal, et il s'agit bien évidemment de Laura Pfeiffer. Alors, je crois que nous devons avoir bientôt un appel provenant de chez Laura. Je vais juste rappeler, alors par ailleurs pour tout le monde, le numéro de l'antenne, puisque on peut appeler en régie. Alors là, faites un peu de place pour Laura, bien sûr. Ouais. Alors donc bien sûr que là tout de suite c'est Laura qui doit appeler, donc c'est prioritaire. Donc je rappelle juste 01 40 05 06 10. Je crois que Laura appelle. Voilà. Et donc nous allons bientôt pouvoir lui parler. C'est ça. Voilà. Allô Laura, tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Ouais, bonjour. Bonsoir. Et bienvenue. Alors, je suis avec Thomas, donc de la CGT du ministère aussi. On vient de parler donc de la campagne menée aux côtés des sans-papiers, et on voulait parler de la campagne que nous avons menée pour te soutenir et que toi tu mènes contre l'entreprise Tefal. Voilà.
Ouais.
Je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer.
Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Donc cette semaine, j'ai appris que mon premier accident de service, donc c'est l'accident du travail pour les fonctionnaires, d'avril 2013, a été reconnu comme tel par le tribunal administratif qui a annulé la décision du directeur régional qui avait refusé à l'époque de me reconnaître d'accident de service et qui avait décidé que ça n'en était pas un. Donc voilà, je suis assez contente parce que c'est le tout début de l'histoire quoi, qui me donne raison. Donc c'est très important symboliquement pour moi.
Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ça c'est vraiment c'est un moment important parce que si tu peux nous rappeler, donc cet accident de service a eu lieu parce que ton supérieur avait décidé que t'étais gênante. C'est ça, hein?
Voilà, c'est ça. En fait, en avril 2013, mon supérieur m'avait convoqué dans son bureau. Mm-hmm. À l'époque, j'ignorais un peu le sujet de la convocation. Donc, je suis arrivée un petit peu naïvement dans son bureau toute seule. Et puis là, ça m'est tombé dessus pendant 2h30.
Il m'a hurlé dessus.
Ouais, ça a duré 2h30. Ça a été très, très long. Ça a été très éprouvant. Il m'a hurlé dessus. Il m'a critiqué tant professionnellement que personnellement. Et puis... le sujet TEFAL a été abordé pour la première fois à ce moment-là, quoi. Donc, en gros, il m'a reproché de contrôler la société TEFAL, de vouloir contrôler leur accord de la durée du travail. Et donc, c'est vrai que c'est le tout début, hein, vraiment, quand ça m'est tombé dessus. Et à ce moment-là, moi, je me doutais pas de tout ce qu'il y avait derrière.
Oui.
Et c'est vrai que ça m'a profondément choqué, quoi.
Voilà, parce qu'on a parlé dans l'émission, on a pas mal parlé de ton dossier, hein, notamment avec Kevin qu'on a reçu plusieurs fois aussi au téléphone. Et effectivement, il s'avère qu'il était en train d'agir sur ordre, quoi. C'est ça qu'on s'est aperçu après, hein.
Voilà, donc plusieurs mois après, donc ça c'était en avril 2013 l'entretien, et donc moi c'est qu'en novembre 2013 que je comprendrai qu'effectivement, la veille de cet entretien, il avait reçu la société TEFAL, donc ça à l'époque je ne le savais pas, je l'ai su bien plusieurs mois après. Et donc ouais, la veille de cet entretien, il avait reçu les employeurs de la société TEFAL, et puis il s'était mis d'accord en gros avec eux pour leur dire je vais faire en sorte qu'elle vous fiche la paix, quoi. Donc et l'entretien, c'était ça le but, hein, donc c'était de me déstabiliser et de me faire renoncer au contrôle que j'avais commencé vis-à-vis d'eux. Uh-huh. Mais bon, c'est vrai que ça, au moment de l'entretien, moi, je le savais pas. Et quand ça m'est tombé dessus, quand il a commencé à me critiquer professionnellement, personnellement, sur ma personnalité, sur ce que j'étais en tant que personne, en tant qu'humaine, c'est vrai que moi, j'ai pas compris. Et puis, ça m'a fortement déstabilisée parce que j'avais pas, voilà, je savais pas tout ce qu'il y avait derrière. Et donc, je me suis remise en question. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de mois à m'en remettre de cet entretien. D'ailleurs, sur le coup, j'ai pas compris pourquoi ça me déstabilisait autant, pourquoi ça m'avait autant affaibli et autant fragilisé. Uh-huh. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'inspecteur du travail, on reçoit souvent des salariés comme ça qui sont harcelés ou qui ont des entretiens un peu douloureux, qui le vivent mal, etc.
Mais on s'imagine pas
quand ça vous arrive à vous, même si on est inspecteur du travail, on n'est pas préparé. Uh-huh. Et quand ça vous arrive, on n'a pas le recul nécessaire et on comprend pas pourquoi ça nous fait autant souffrir et autant de mal et on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à reprendre pied. Et en fait, tout simplement, c'est parce que lors de cet entretien, finalement, il a remis en question et en cause tous les fondements et toutes mes bases éthiques et idéologiques qui faisaient que je faisais ce métier à ce moment-là, quoi. Donc, c'est ça qui a été très violent. Donc, maintenant, je peux le dire et je l'analyse comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, les faits, je l'analysais pas du tout comme ça. Je pensais que c'était moi le problème. Je pensais que j'avais un problème de pratique professionnelle, un problème de personnalité qui faisait que je m'attirais des ennuis, que d'autres collègues s'attiraient pas. Et c'est vrai que sa tentative de déstabilisation, finalement, elle avait plutôt bien marché à ce moment-là.
C'est ça. Mission accomplie pour lui, en fait.
Voilà, mission accomplie. D'ailleurs, c'est ce qu'il a à un moment donné, dans les échanges de mails dont j'ai eu connaissance en novembre, donc plusieurs mois après. C'est vrai qu'à un moment donné, on voit le DRH TEFAL qui demande est-ce que son action porte ses fruits, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est vrai, c'est vraiment ça, hein. Ils avaient mis en œuvre un plan d'action pour me mettre sur la touche, et c'est vrai que sur le coup, ça a fonctionné, quoi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, de me faire reconnaître cet événement-là, que le tribunal administratif reconnaisse que c'était un entretien extrêmement violent, ils l'écrivent comme ça, hein, et que effectivement, du coup, c'est un accident de service parce que c'était sur le lieu et le temps de travail, et que c'était bien lié à mon exercice professionnel, et que ça m'a fortement déstabilisé, et que c'est ça qui m'a rendu malade pendant 6 mois. Mmh. C'est vrai que c'est vraiment une victoire, ça m'a fait vraiment du bien, quoi. Ça m'a réhabilité. Je me dis enfin, ça va dans mon sens.
D'accord.
Oui, Laura, je suis un collègue en fait de Paris. On se connaît pas, hein, mais simplement, je voulais te féliciter quand même pour cette première victoire judiciaire. Et puis surtout, je suis très impressionné par ton courage dans cette affaire, puisque c'est une affaire au long cours et toutes les victoires sont bonnes à prendre. Bon, t'as fait l'affaire en fait d'une une véritable cabale organisée et qui a pour but de délégitimer aussi toute l'inspection du travail. Donc c'est évident que les conséquences en termes de santé, voilà, ça doit être effectivement assez terrible. Et bon, simplement au-delà de ça, je veux peut-être te demander pour toi la prochaine étape pour toi au niveau de tes démêlés avec le ministère du Travail après cette victoire. Est-ce que
sans trop déflorer bien sûr ta stratégie, hein,
mais oui,
c'est vrai
oui,
que
oui,
ça
non,
intéresse
non,
tout le
si,
monde.
S'il y a possibilité effectivement de communiquer sur cet aspect, mais c'est vrai que bon, je pouvais pas être à Chambéry, mais il y a beaucoup de collègues qui sont déplacés pour te soutenir et
on a fait une émission spéciale.
Voilà. Donc ça me semble. Voilà, on est très attaché effectivement à ce que tu puisses t'en sortir par le haut dans cette affaire. Donc, qui nous concerne
déjà,
tous.
Voilà,
je vais intercaler une question.
Moi, voilà, d'être soutenu comme ça. Enfin, moi, ça me fait toujours du bien au moral de voir les collègues qui me soutiennent, de voir. Puis bon, il faut savoir que voilà, depuis presque 4 ans, je suis pas toute seule. Toute seule, j'aurais pas réussi. Hein, même si au tout début, voilà, lors de cet entretien, j'étais un petit peu toute seule. C'est vrai qu'au fur et à mesure des événements qui ont échelonné toutes ces 4 années, bah, y a quand même des collègues. Y a un petit noyau dur de collègues sur la Haute-Savoie, et puis il y a des collègues aussi, un noyau dur régionalement sur Rhône-Alpes qui me soutiennent, qui m'épaulent, qui m'aident au jour le jour à. Parce que ben, des attaques, j'en ai subi plein, tant de l'administration, tant des employeurs du département. Ben voilà, ça, des fois, ça attire un petit peu tout azimut contre moi, puis les condamnations, etc. Donc c'est vrai que bon, ben, tout ça, je l'ai pas vécu toute seule, parce que toute seule, je serais pas arrivée, hein, sincèrement. Il y a eu des moments où j'étais vraiment à bout. Je voulais plus voir personne, je voulais plus entendre parler de personne. J'étais en dépression. Donc quand dans ces moments-là. Ben, c'est des collègues qui prennent le relais, qui font des tracts, qui m'aident à intenter des actions, qui me soutiennent, qui m'apportent qui me remontent le moral. Donc sans eux, voilà, j'y serais pas arrivée pendant 4 années, parce que faut pas se leurrer, dans ce genre de combat, on peut pas y arriver tout seul. Ça, c'est une certitude. Après, voilà, l'importance de ce jugement et de cette première victoire, c'est déjà au niveau de l'administration, j'espère vraiment que l'administration va prendre acte de cette décision du tribunal administratif et reconnaître les accidents de service qui ont suivi, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un, ça c'est le premier.
Ça,
il y en a eu trois qui ont suivi derrière.
Trois, c'est ça. Hein.
Il y en a eu 4.
Waouh.
Le dernier en date, il date du mois de septembre 2016, donc il est pas vieux. Et puis le plus important en termes de durée, c'était celui de juin 2016, quand j'ai appris que j'allais être poursuivie par le procureur de la République. Donc là, c'est vrai que je suis retombée en dépression. Donc en fait, c'est ça. En fait, pendant 4 années, j'ai échelonné les moments où je suis dans le combat, où ça va mieux, et les moments où je suis vraiment en dépression et je suis au bas du bas. Et donc, du coup, le résultat, c'est 4 demandes de reconnaissance d'accident de service et pour l'instant 4 refus.
Alors justement, je voulais rebondir là-dessus parce qu'on aime bien dans cette émission décortiquer un peu le comment qu'on se bat, quoi. Hein, c'est-à-dire pas juste dire bon ça a marché, ça a pas marché, mais c'est quoi les étapes. Et dans le cas de là, on est dans la fonction publique, donc on a reconnaissance de l'accident de service, c'est un truc assez particulier. C'est quoi les étapes pour faire reconnaître un accident de service? Et au pire, comment est-ce qu'on finit par se retrouver devant le tribunal administratif?
Alors les étapes, c'est que quand t'es victime d'un accident de service, enfin que tu t'estimes toi victime d'un accident de service, parce que c'est ça qui est important, c'est que tu dis que voilà, en gros tu te dis là d'un coup ça va pas, je vais pas bien, je vais voir mon médecin. Et pourquoi je vais voir mon médecin? Est-ce que c'est à cause de ma vie perso? Est-ce que c'est à cause d'un événement qui s'est passé dans ma vie perso? Ou est-ce que c'est à cause d'un événement qui s'est passé dans ma vie professionnelle? Si la réponse est un événement qui s'est passé dans ma vie professionnelle, il faut pas chercher à midi à 14h, il faut demander à son médecin de te donner le CERFA, là, le document d'arrêt maladie, violé, quoi. En gros, pour parler très pratique, c'est le document d'arrêt maladie qui reconnaît le lien avec le travail, voilà.
C'est ça.
Donc déjà, ça, c'est la première étape. Comme ça, on pourra pas te reprocher d'avoir changé ton fusil d'épaule en cours de route ou au début d'avoir dit que c'est un arrêt maladie et puis après d'avoir voulu que ça soit reconnu en accident du travail. Déjà, si dès le départ, tu fais ça, déjà, tu pars bien.
Ne pas hésiter.
Voilà. Et puis une fois que tu transmets ça à ton administration. Et quand t'as transmis ça à ton administration, en général, ils vont te donner un document à remplir, donc plus ou moins avec de diligence et de rapidité. Moi, c'était toujours très long. Hein. Faut savoir que ça passe en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de recevoir quoi que ce soit. Mais bon. Et en gros, quand ils te donnent un document, en gros, c'est toi qui fais la propre enquête de ton accident de service. Tu dois remplir
génial.
Les circonstances, les auteurs, les causes. Enfin, tu dois remplir tout un tas de trucs. La nature du trouble, donc tu verras, trouble psychique, ça n'existe pas, donc il faut marquer autre, mais c'est pas grave, tu mets à côté de autre, tu mets trouble psychologique ou psychique. Il faut pas se laisser déstabiliser par ça. Et une fois que tu as rempli ça, tu le renvoies à ton administration. Et donc, elle est censée soit prendre une décision. Donc là, c'est pareil. Chez moi, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Ça peut prendre 6 mois chez moi, mais bon. C'est le directeur régional, il me porte beaucoup dans son cœur. Il aime bien faire languir les choses. Je le remercie d'ailleurs. Mais bon, voilà. En gros, si une fois que tu as rendu ça, soit ils sont d'accord et ils reconnaissent ton accident de service et puis c'est bon quoi, t'as le droit d'être en arrêt jusqu'à ce que tu sois guéri, t'as pas de problème sur ton salaire ou quoi que ce soit, le temps qu'il faut, et sinon ils le reconnaissent pas et ils saisissent ce qu'on appelle une commission de réforme, donc dans laquelle siègent des médecins, soi-disant experts, des représentants de la presse, représentants de l'administration, et il y a quand même deux représentants des organisations syndicales,
ouais,
qui sont là pour porter un petit peu ta voix à toi. Et donc cette commission
souvent
de réforme,
pas d'accord avec les pontes d'ailleurs, parce que j'ai
de quoi
souvent pas d'accord avec les pontes d'ailleurs, c'est souvent les seuls, oui, qui font tâche dans l'harmonie pour rejeter la plupart du temps, c'est ça hein.
Oui, voilà, en fait en gros la commission de réforme, vu que c'est elle est présidée en général par celui qui gère l'argent, c'est-à-dire le trésorier de la TG quoi, la trésorerie générale, donc en gros la commission de réforme en général, elle dit toujours que c'est pas un accident de service quoi.
D'accord. Ça gagne du temps.
Pour mon premier accident de service dont le TA là vient de me tribunal administratif vient de reconnaître l'existence, la commission de réforme avait rendu un avis défavorable.
D'accord, c'était pas ton donc, supérieur voilà, qui venait de te prendre dans le bureau, c'était pas, ça a pas duré 2h30, c'était pas au sujet du boulot.
Alors, il faut savoir que cette commission de réforme, elle m'a beaucoup traumatisée. Après, moi, j'en ai vécu 3 autres après, donc après, je prends l'habitude, mais c'est vrai que la toute première, ça a été un choc immense, parce que je me suis retrouvée, j'ai voulu témoigner, parce que c'est pas une obligation, mais moi, j'ai voulu le faire, et je suis arrivée devant eux, et je me rappellerai toute ma vie que le jour où je me suis assise devant eux, ils m'ont dit... vous parlez de votre santé, rien d'autre, on veut rien savoir d'autre, pas, vous parlez pas de votre profession, pas des circonstances. Alors là, j'ai regardé, j'aurais dit, mais vous êtes là pour juger du lien de causalité entre la profession et ma maladie. Si je vous parle que de ma maladie et pas de la profession, comment vous allez faire? Madame, vous obéissez, vous ne parlez que de votre état de santé. Donc c'était hyper violent, c'était hyper froid, c'est pas du tout objectif, c'était pas sain. Et c'est vrai que ça m'avait profondément choquée. Moi, je me rappelle, j'étais sortie de cette commission de réforme, j'avais dans le couloir de la cité administrative d'Annecy, j'avais pleuré pendant une demi-heure, j'arrivais pas à me calmer, et je pleurais comme un bébé, quoi. Donc, tellement ça m'avait choquée. Et bon, en gros, voilà, cette commission de réforme, il faut pas en attendre grand-chose. Si elle va dans votre sens, c'est tant mieux, c'est un exploit. Si elle va pas dans votre sens, c'est normal et c'est pas grave, il faut continuer, quoi.
Et continuer, ouais, ça veut dire...
Il faut pas se décourager. Donc, une fois que la commission de réforme, elle a rendu un avis défavorable, et ben après il faut saisir le tribunal administratif, donc c'est là que le chemin de croix commence vraiment, parce que voilà, il faut prendre un avocat qui va rédiger un mémoire, à moins que vous soyez capable de le faire tout seul, mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'en général vous êtes soit en dépression soit pas bien du tout, donc voilà. Et puis ben le tribunal administratif, nous on l'a saisi, ça devait être en 2014, et ben voilà, il se passe presque 3 ans avant qu'il rende une décision. Il faut pas être pressé, voilà.
Non,
c'est
pas être pressé,
juste
hein,
le truc quoi. Mais bon, par contre, après, voilà, c'est la satisfaction au bout du bout que, ben voilà, d'avoir raison, que d'être reconnu en tant que victime de l'administration, victime de conditions de travail détestables, de choses absolument pas normales, et que l'administration soit enfin reconnue coupable, quoi. Enfin,
elle a pris cher, non, à l'audience, hein, l'administration.
De quoi?
L'administration, elle a pris cher.
L'administration a pris très cher, oui. Ouais. Effectivement, alors ça, c'était... c'était la frite sur le gâteau, parce que nous, on était allé à l'audience à Grenoble avec 3 collègues, pour écouter les conclusions du rapporteur public, c'est en gros le procureur qui œuvre au tribunal administratif, quoi. Et c'est vrai que les conclusions étaient assez savoureuses, parce que voilà, il a clairement dit que c'était un accident de service, que c'était limite un cas d'école, qu'il n'y avait pas lieu à contester quoi que ce soit, que l'attitude de l'administration était plutôt assez surprenante et incohérente, ça ce sont ses mots. Et puis il a même qualifié l'attitude de l'administration dans ce dossier de déni. Donc c'est un mot fort, hein, parce que le tribunal administratif, c'est un tribunal assez froid, qui est pas là dans l'émotionnel du tout, et que le rapporteur public emploie ce genre de termes assez fort. C'est vrai que ça nous a fait énormément de bien, et puis ça prouve à quel point cette affaire, même si on enlève tout l'aspect médiatique, tout l'aspect politique, le traitement de ma personne par l'administration dans cette affaire, ça a été un traitement odieux.
Ouais.
C'est-à-dire que ils ont essayé de me tuer symboliquement, de me tuer psychologiquement. Et c'est vrai que voilà, moi pour moi,
ils se sont comportés comme un monstre froid, quoi, c'est ça, hein?
Ah ouais, même pas un monstre froid, parce que quand on voit le représentant de l'administration au tribunal administratif de Grenoble qui vient intervenir après que le rapporteur ait lu ses conclusions, au lieu de jouer profil bas et d'être assez objectif et justement froid, il est complètement dans l'émotionnel. Il dit que chez moi, les problèmes psychologiques, ils sont pas conjoncturels, ils sont structurels. Donc, ils m'attaquent directement dans ma personne, de nouveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini, quoi. Mmh. Ils m'en veulent, ils veulent ma peau, quoi. Clairement, c'est ça, ça devient personnel. C'est-à-dire que l'administration, normalement, qui est froide, objective, et qui administre froidement, et qui, à la limite, a juste des problématiques financières et administratives. Là, c'est pas le cas, me concernant. Elle veut ma peau. Mmh. Enfin, voilà. Moi, c'est clairement ça. Il s'est acharné. Il s'est tellement acharné, le responsable d'administration devant le tribunal administratif, que le président du tribunal administratif a dû le reprendre et le recadrer plus de 3 ou 4 fois.
Ça fait du
en
bien,
lui disant,
ça, hein.
Ça suffit, monsieur, vous vous taisez. Donc, c'est vrai que c'était ultra violent. Et voilà, c'est toute cette histoire, elle a pris une tournure assez hallucinante, parce que voilà, l'administration et tous ses responsables hiérarchiques auxquels j'ai eu affaire se sont comportés, mais comme des moins que rien. Mmh. C'est surréaliste, c'est-à-dire c'est pire que ce qu'on peut imaginer, et on se dit qu'en plus on est dans le ministère du Travail, donc c'est pire que ça, quoi.
Thomas?
Non, mais juste une petite remarque, je pense que s'ils ont été aussi violents contre toi, c'est que cette affaire, elle met au jour la collusion de notre administration avec le milieu patronal de ton département et des milieux économiques. Donc ça,
oui,
c'est
oui,
quelque chose qui est insupportable, et il y avait des éléments complètement incontestables par rapport à cette situation.
C'est ça, c'est comme un miroir, en fait. Plus c'était violent pour moi, c'est parce que eux, je pense, l'ont vécu extrêmement violemment. C'est que pour une fois, on avait la preuve de la collusion, ce que d'habitude on n'a pas.
Voilà.
On avait la preuve en détail, et puis ils peuvent pas s'en défaire. En plus, médiatiquement, le combat médiatique, ils l'ont perdu depuis longtemps. Donc ça, je pense qu'ils l'ont extrêmement mal vécu aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui compte pour eux. Et donc c'est vrai que du coup moi j'ai pris la violence en retour comme un boomerang, hein, alors que bon moi j'ai rien cherché, j'ai juste fait mon boulot à la base, mais c'est vrai qu'ils l'ont très mal vécu. Hein.
On voit là sur la dernière actualité du ministère, là sur le code de déontologie, que c'est une sorte de soubresaut ou en tout cas de conséquence de ton affaire, pour ils essayent de brider la liberté d'expression et de pouvoir.
Oui, oui, c'est ça. Moi, le code de déontologie, c'est vrai que moi, je rencontre la DGT régulièrement. Et puis, il y a plus d'un an, juste après ma première condamnation, j'avais rencontré la DGT qui m'avait dit oui, on va travailler à la déontologie, on va faire un code de déontologie. Sauf que moi, ils me le disent dans un contexte où moi, je demande à ce que les responsables hiérarchiques arrêtent d'être en collusion avec le patronat
bien
et qu'il y ait des garde-fous. Pour que mon
c'est
affaire finalement ne se reproduise pas. Sauf que quand on voit le code de déontologie, comment il est rédigé, en fait, on se rend compte que limite, on se demande si c'est pas moi qui ai commis des fautes déontologiques et que du coup, que mon affaire se reproduise pas, il faut qu'on arrive à bâillonner les agents. Donc en gros, leur solution, eux, pour qu'il y ait plus de déontologistes dans le ministère du Travail, c'est de bâillonner d'éventuels lanceurs d'alerte, tels que moi, pour que les responsables hiérarchiques continuent à faire tranquillement leur petite sauce avec le patronat. Donc en fait, en gros, ils n'ont rien compris, ils ont compris à l'envers, sauf que le problème, c'est que le code de déontologie, si on le lit tel qu'il est rédigé aujourd'hui, en gros, moi, ce que je suis en train de dire là, à l'antenne aujourd'hui, je pourrais limite être radié, quoi. Donc ça fait peur, on n'a plus le droit de rien dire.
On en profite pour le dire, hein.
Voilà. Ouais. Donc j'ai plus le droit de m'exprimer en tant qu'inspectrice du travail, on n'a plus le droit de dire même publiquement qu'on est inspecteur du travail si on lit ce code, enfin c'est complètement surréaliste, quoi. On n'a plus le droit à la parole, même si on est syndiqué comme c'est mon cas, on peut plus rien dire, on peut plus rien critiquer. Et comme ça en fait ils veulent s'assurer d'être tranquille, quoi, qu'il y ait plus d'affaires Tefal, qu'ils continuent à faire leur petite sauce, à prendre les petits déj avec les grands patrons du coin. Et puis à jouer au golf là, et puis qu'on leur fiche la paix, quoi. Donc parce que c'est ça en Haute-Savoie, ils sont tous en... parce qu'il faut savoir que le directeur départemental mon époque qui m'avait mal parlé, lui vit effectivement toujours à Annecy. Il faut savoir que le directeur régional qui œuvre en région Aura maintenant, puisque c'est Auvergne-Rhône-Alpes, lui aussi il vit à Annecy. Donc il y a pas de hasard dans la vie. Hein. Ils se connaissent tous et ils se soutiennent et ils se serrent bien les coudes. Ils sont tous solidaires entre eux et ça fait mal quand on se les prend comme un mur face à soi, quoi. Alors que nous on est un pauvre agent. Et qu'on s'y attend pas en plus.
Écoute Laura, on va te remercier pour continuer à t'affronter à tous ces hommes pressés là. J'introduis déjà le prochain morceau de musique, tu vois, je suis un vrai pro. Par ailleurs, le lien vers la pétition contre le code de déontologie est toujours actif, hein, il est sur le podcast de l'émission du mois dernier, hein, où on a
J'invite tout le monde à la signer, moi je l'ai.
Voilà, signé. Ouais, exactement, moi aussi.
Encore bravo, hein, pour ta victoire.
On voulait te remercier aussi pour ce combat. On est très content de t'avoir eu à l'antenne, vraiment top. Et pour parler en plus de, bah de du début de la fin pour nos ennemis de la haute administration qui vont comprendre leur douleur à partir de maintenant. Ça y est, c'est terminé là les vacances.
J'espère qu'on gagne en cassation déjà et puis voilà, c'est la prochaine grosse étape.
C'est nous qu'on gagne à la fin, tu sais très bien.
Hein, en novembre, décembre, j'espère que voilà de cette année, j'espère qu'on arrivera à faire casser l'arrêt de la cour d'appel.
Ouais. Ça va faire mal. T'inquiète, on est toujours avec toi là. Et merci d'être intervenu à l'émission. Hein, tu seras invité dès qu'on aura encore des bonnes nouvelles à transmettre aux auditeurs. Tout le monde a bu tes paroles, hein, dans le studio comme en régie. Hein, j'ai toute la tech qui approuve bruyamment. Enfin, tu les entends pas, bien sûr, mais voilà. Et donc on est très content aussi que tu nous aies expliqué un peu les éléments de procédure qui peuvent permettre à d'autres collègues dans d'autres administrations de se défendre aussi contre les empiétements de la hiérarchie. Merci beaucoup. Ouais. Hein. Allez,
bonne soirée.
Merci. Ouais, toi aussi. Eh oui, c'était encore un homme pressé. Là, il y a eu un homme pressé qui s'est fait sanctionner là dans l'affaire de Laura déjà. Ça va continuer comme ça. Bon, alors on a vu que effectivement, il fallait se bagarrer pour ses droits quand on est sans papier, il faut se bagarrer pour ses droits quand on est fonctionnaire et contre la répression et pour sa santé au travail, et c'est justement comme ça qu'on va introduire le troisième sujet. Alors, rappelez-vous, nous avons fait aussi une émission spéciale sur les états généraux de la santé au travail en mars de cette année. On avait pu discuter avec Éric Bénel de l'Union syndicale solidaire, qui nous avait dit qu'il y aurait des suites. Il nous avait promis qu'il y avait des suites. Si, je vous assure, il nous avait promis qu'il y avait des suites, et la preuve, je l'ai en son.
Pour nous, les états généraux, c'est un point de départ, c'est pas un point d'arrivée. À partir de tout le matériau qu'on va avoir accumulé à travers ces deux journées, qu'on a essayé, on a mis des rapportrices et des rapporteurs dans tous les ateliers, on a enregistré beaucoup d'échanges, on a filmé. Tout ce matériau-là, maintenant, on va le reprendre, on va le retransmettre à tous celles et tous ceux qui sont venus à ces états généraux, et aussi à ceux qui voulaient y participer et qui n'ont pas pu venir. Donc on va retranscrire tout ça, on va le retransmettre, on va laisser aux gens le temps de se l'approprier. Et on va faire au mois de juin une nouvelle réunion avec tous celles et tous ceux qui veulent continuer pour voir à partir de tout ça, qu'est-ce qu'on peut maintenant mettre en place de manière très concrète. Alors on a des idées. Nous, par exemple, quelques-uns du collectif, on pense que... Et ça rejoint beaucoup d'interventions qu'on a eues pendant ces deux journées, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des endroits pour essayer de comprendre et de trouver comment faire sur ces questions de santé des travailleuses et des travailleurs, des salariés, des équipes syndicales, des fois des médecins du travail, etc. Et donc d'avoir des permanences pluridisciplinaires tenues par les collectifs, à Paris et en province, dans les autres villes, ça pourrait être une piste extrêmement concrète et qui répondrait sans doute beaucoup à plein de questions que se posent les salariés sur ces questions-là. L'objectif principal, c'est pas de se lamenter, c'est pas de constater, c'est de construire ensemble des outils qui permettent d'avancer sur ces questions de la santé des travailleuses et des travailleurs. Donc ça aussi, un collectif boîte à outils, ça peut être aussi une des pistes issues des états généraux.
Voilà, ça c'était Éric Bénel qui nous a promis plein de choses. Alors est-ce qu'il a tenu son pari? Je ne sais pas, mais je crois que Selma est revenue de chez les Oompa Loompa où elle était en mission. Et Selma, t'es là?
Non, j'étais pas chez Selma, mais j'étais loin. Ici, ton reporter spécial.
Ouais, voilà. Alors, Eric nous a promis des choses et des monts et des merveilles lors des états généraux. Est-ce qu'on a deux minutes pour faire le bilan, là, de voir un peu ce qui a été mis en œuvre? Alors, je commence, hein. J'y vais. Il nous a promis des permanences santé-travail, mais il y a rien, on voit rien venir, pas vrai?
Si, la permanence a été créée. En janvier, c'est tous les premiers vendredis de chaque mois.
Ouais.
Et elle est ouverte à tous les travailleurs et les travailleuses, quel que soit leur statut et quel que soit leur problème lié aux conditions de travail et à la santé.
Où ça?
à la Bourse du Travail, 3 rue du Château d'Eau à Paris.
D'accord. Ok. Alors bon, ok, d'accord.
On va en parler le 24 janvier.
Comment ça le 24 janvier? Bon, attends, deux secondes. Donc, ok, d'accord, il a dit des permanences. D'accord, ok, bon, ok, bon, il y a des permanences. Il a dit une boîte à outils. Mais on n'a pas de boîte. Ah si, on a une boîte à outils.
Si, on en avait parlé.
Ah oui, c'est vrai.
Décembre, on en avait parlé, beaucoup de ressources sur les conditions de travail, la santé au travail. Et il y aura d'autres choses le 24. Tu peux parler du 24.
Le 24? Le 24 janvier, là, mardi? Ah, on a perdu le... Ah, on a perdu Selma. Bon, effectivement, Selma vient de me transmettre un fax qui me dit qu'il y aura quelque chose le 24 janvier. Et oui, il y a donc la suite des états généraux. Et dès qu'on a réussi à récupérer Selma, la technique, bien sûr, va me faire signe et elle pourra en parler. Mais en attendant, j'ai sous les yeux un appel qui provient du site... Ne plus perdre sa vie à la gagner, tout attaché, ne plus perdre sa vie à la gagner .org, où il y a toutes sortes d'informations, et notamment l'appel au 24 janvier 2017. De 9h30 à 17h, à la Bourse du Travail de Paris, à la même adresse, 3 rue du Château d'Eau, 75-010. Allô, Selma? Ah, peut-être qu'on va pouvoir lui parler. Oui, Selma?
Oui, je suis là.
Ouais.
Donc, Eric Bénel parlait d'une suite des états généraux en juin, mais comme la lutte contre la loi travail nous a bien pris du temps et de l'énergie.
Ouais.
Donc finalement, cette suite aura lieu ce mardi 24 janvier de 9h30 à 17h à la Bourse du Travail, même adresse à Paris.
Ouais.
Et là, c'est pour franchir une étape. C'est vraiment se retrouver pour poursuivre les états généraux de mars 2016 et construire un mouvement collectif pour la santé au travail.
C'est ça. Donc, c'est effectivement là, on se lance dans l'action.
Oui, carrément. Ouais. L'idée, c'est de construire sur le long terme un mouvement large, pluraliste, pour les droits collectifs des salariés à défendre leur santé. Oh. Et donc, ça va être des propositions concrètes issues de
D'accord, ce qu'il nous avait promis.
Voilà. Oh. Et sur le site du
Alors, j'ai cité effectivement l'adresse du collectif. Je vais la redonner. Hein. Elle sera aussi dans le podcast, donc de l'émission, dans le texte du podcast. Ne plus perdre sa vie à la gagner.org. Et donc, où on va parler et où effectivement, il y a l'invitation. Il y a les adresses des permanences, conditions de travail et santé. Donc, le premier vendredi de chaque mois.
Et il y a les comptes rendus exhaustifs des 16. Et si les personnes veulent venir le 24 janvier.
Oui. Ah, on a reperdu Selma. Mais donc, ouais, les personnes qui peuvent venir le 24 janvier sont invitées. On a déjà au moins 130 personnes qui ont fait afficher leur présence.
Ça.
Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais ça veut dire qu'en fait, j'ai bien peur de dire que le contrat est rempli. C'est-à-dire que ce qu'on a entendu là, c'est effectivement ça. Et je n'ai pas peur de dire également qu'il y aura et il y a eu et il y aura encore des répercussions en région. Selma, tu es là?
Je suis là
pour incroyable.
Le 24 janvier en quelques secondes un petit mail à contact@gagner.org.
Oui, alors c'est, tu disais, oui, contact@neplusperdresavieàlagagner.org qui permet de s'inscrire encore à cette journée. Il est encore temps, vous pouvez vous inscrire pendant tout le week-end pour participer à la restitution et aux outils qui seront mis en place. Et donc, voilà, donc moi je résume. Je vous résume une heure d'émission en une minute. On a vu, la campagne des travailleurs sans papier a pu décoller et imposer son ordre du jour au ministère du Travail. On a vu Laura qui a pu vaincre son administration en obtenant la victoire au tribunal administratif. Et nous avons eu le collectif pour la santé des travailleuses et des travailleurs qui a rempli ses objectifs en mettant en place les outils qu'il nous avait promis lors des états généraux. Bon, ben, je crois que tout est dit, hein.
C'est le tiercé gagnant, c'est ça?
C'est ça, exactement, le tiercé gagnant. Et dans l'ordre, en plus! Eh, ben voilà, hein, qu'est-ce que vous dites? L'été 2017, ça va très, très, très bien se passer. Tu veux rajouter quelque chose, Thomas?
Non, bah écoute, merci pour ton invitation et puis bonne lutte à tous.
Bonne lutte à tous et à tous. Je pense que l'année 2017 sera bonne et on va s'assurer que ce soit le cas. Merci d'avoir écouté Secret de Fabrication, le format mensuel de Mode d'Emploi. I can't.
can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning.